avec les blagues qu'on vous a dit, avec Morgane.
Salut.
Non, Daniel Morin.
Bonjour Morgane.
Sera soir à tout à l'heure, Fanny Ruet et notre invité Marvin Delter.
Bravo.
Nous allons recevoir Marine pour le grand final de d'Alice 9h. Je crois que c'est l'une des séries qui a le plus de succès légitimement sur TF1. Et ça s'arrête, mais quoi ?
C'est une longévité incroyable, c'est
mais
quoi ? Ça fait 20 ans, ça fait 15 ans.
Ça fait, alors, oui, je crois qu'il y a eu de...
20e anniversaire.
Oui, mais pas avec Marine tout le long. Elle est trop jeune, Marine, pour faire ça depuis 20 ans.
Oui, mais en tout cas, l'histoire, quoi.
Ah oui, oui, voilà. Oui.
La légende.
Madame la juge, je sais pas comment ça s'appelait avant d'ailleurs, mais on va lui demander de la savoir.
Ouais.
Beaucoup mieux que nous. Cavalcade autour du monde équestre, cette série en deux épisodes, ça sera demain 21h10 sur TF1, c'est deux épisodes, avec Laurent Gamelon, j'adore ce mec aussi, évidemment Marie Delterme qui est notre invitée, on va en parler avec eux, mais blind test.
Daniel,
oui,
je suis là.
Oui.
Ouais.
Ça met de bonne humeur, on est d'accord?
Ça me met à moitié de bonne humeur, à 50% ça m'angoisse.
D'accord.
C'est vrai?
Ouais.
Ok, on va remplir les autres 50%.
L'école.
Et là, c'est bon, ça t'angoisse.
C'est un souvenir d'école,
ouais,
c'est ça,
ouais,
un truc un peu...
Ouais, mais c'est la légèreté, l'insouciance,
ouais, c'est vrai.
Des années yéyé. Qui chante ça?
Daniel.
Ouais.
Final Countdown.
Oui.
Ah ouais. Ça commence comme ça?
Ça commence comme ça si tu prends la nappe. Sinon, il y a.
C'est tellement le moment de la soirée où tu danses un peu tout seul.
Oui, je sais pas parce que t'es rentré. Voilà.
Vous avez trouvé le thème ou pas?
Oui.
Fini, oui.
Voilà, c'est un peu la fin, oui, le final.
Ah,
il a
the Doors.
Ouais.
Jolie Fanny.
Ouais, avec l'accent et tout. Mais ouais. elle a pas dit Fanny, quoi.
C'est absolument vrai.
Si. Ah ouais?
Quoi?
Enfin, pour une fois qu'elle
dit. Elle a dit This is the end.
The Doors. Fanny. Elle a dit c'est fini.
Funny. C'est fini, Fanny.
Funny the end. Can you picture what will be
so breathless? C'est quoi le titre en vrai?
The end.
Voilà. Donc c'est pas This is the end.
Non, elle a pas dit Zizi, elle a dit Fanny Vienne.
C'est pas la fin de la mauvaise foi, en tout cas.
Jamais.
Qui chante ça?
Fanny.
Oui.
Orelsan.
Jolie.
Orelsan.
Attention, qui chante ça?
Leïla, 16.
Non, Fanny, non. C'est Linkin Park.
Mais
qu'est-ce qui se passe?
Allez.
Non, c'est pas Linkin Park, non, du tout. C'est pas Linkin Park.
Placebo.
Mais oui.
Merci.
Ah, le Bitter End alors.
Oui, Bitter End. Placebo qui a un nouvel album et comme par hasard, ils viennent le présenter dans Taratata.
Mais
c'est
non.
Un truc de dingue, je te jure.
Sérieux?
On me l'a dit, mais je sais pas si c'est vrai. Qui chante ça?
Capri, c'est fini. Hervé Villard.
Pas loin.
Leïla, oui. Barry White.
Non.
Ocean, Frank
non.
Ocean.
Non.
Cette voix, mais j'entends pas.
Je vais dire tais-toi.
Ouais, mais bon. C'est pas Barry White.
Non.
Lionel Richie.
Non.
Oh non, mais c'est quoi
Otis
ça?
Redding.
Non.
Non.
Frank Zappa.
Anthony Johnson.
Non.
La Rousseau.
C'est les mecs qui chantaient à 3-4 là, comme ça hyper sucré là.
Oh,
là,
allez,
non,
Boyz II Men.
Ah, il l'a dit avant. Daniel l'a dit avant. Mais j'ai donné quand même pas mal l'indice. Les mecs qui chantent ensemble sucré.
T'as fait un rébut, il a trouvé la solution.
Mais il est là, sache que je te remercie.
Boyz II Men. On les avait jamais eus, je crois, dans Blind Test.
Et si on les invitait?
End
Estelle Banco.
On n'a pas assez de micro. End of the Road, pour arriver donc au final d'Alice Nevers, c'est le banco final. Pour l'instant, c'est Leïla qui est à égalité en tête avec Fanny. Daniel a une bonne réponse. Morgane, une. Attention.
Fanny.
Oui.
Là, c'est Linkin Park.
Exactement. C'est pour ça. Bravo. C'est pour ça que j'ai dit oui tout à l'heure. Je savais qu'ils y étaient, mais c'est ça. Bien fait.
J'ai gagné.
Oui.
deux ans.
C'est la première fois ?
Oui !
Mais non !
Oh là là. Sur LinkedIn Park, quoi. On dirait tellement la fin d'un film Disney Channel.
Victoire de Fanny Ruet, merci d'accueillir Marine Delterre.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Bonjour Marine, bienvenue. Si vous voulez le casque, si vous voulez, il y a un petit bouton là pour régler le volume, si c'est assez fort, pas assez fort.
Ah ben voilà, ça y est.
Ça y est, vous m'entendez bien ?
Oui, très bien.
Super, ça y est, bienvenue. Donc, on disait que c'est le final d'Alice Nevers après des années d'existence et de succès sur... vous avez rejoint en fait Alice Nevers en 2002 en reprenant le rôle de Florence Pernelle, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Mais ça ne s'appelait pas Alice Nevers avec elle ?
Florence Larrieux. Ça s'appelait Florence Larrieux.
C'est vrai ?
Oui.
Ah, incroyable, d'accord. Je crois que c'était Madame le procureur ou un truc comme
non,
ça.
Non, je suis passée procureur il n'y a pas longtemps, mais
bravo.
Ça fait donc...
vous êtes totalement en fusion avec votre rôle. Hein.
Oui, non, parce que...
Et en ce moment, vous êtes sur une enquête ou comment
ça se passe ? Non, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, on a tourné dans le palais de justice, on tourne depuis des années, dans la grande salle des assises. Donc c'était impressionnant parce que voilà, on m'a intronisé dans cette salle-là, qui est quand même où il y a eu tous les grands procès de l'histoire française. Donc
est-ce que de la même manière qu'un costume qu'un maquillage, qu'un trucage, qu'un effet spécial peut aider ou influence sur la manière de jouer, se retrouver dans un lieu comme ça, chargé d'histoire et d'émotion, vous êtes également à rentrer dans le rôle ou confère une nouvelle émotion
là sur ce coup-là ?
Ouais, même en général, dans tous vos rôles, le lieu joue autant que le costume, que le déguisement, que le maquillage ?
Non, pour tout dire, en général, quand je tourne au Palais de Justice, quand je tournais au Palais de Justice, c'était un peu étrange parce qu'en fait, on cohabite avec la vraie vie, la réalité qui est quand même beaucoup plus violente qu'une fiction. Donc on était toujours en train de tourner entre deux sorties de procès d'assises. Il y a même des acteurs qui avaient plus de temps que moi qui, entre les prises, entre les scènes, allaient
à leur propre procès.
Au procès des autres.
Il y a des acteurs qui vont à leur propre procès.
Il y en a.
On a des noms, malheureusement.
Il y en a pas mal.
Oui, malheureusement, oui, qui sont même encore sur scène aujourd'hui.
Donc c'était un peu étrange parfois de cohabiter avec d'être dans le vrai palais de justice. Ouais. En fait.
Voilà. Alors parlons de cavalcade. Le jeu de mots est évident. À la fois il y a une côté fuite et à la fois on est dans le monde équestre. C'est absolument prenant comme suspense avec un point de départ qui est un meurtre. J'ai envie de dire évidemment. Puis après toute une enquête qui se déroule. Quelque chose m'a frappé dans cette série, dans votre jeu, c'est le sourire, votre joli sourire, qui vient barrer votre visage pratiquement à chaque question, même si la question est extrêmement désagréable, même si vous êtes en face de quelqu'un que vous soupçonnez de tous les maux, vous lui souriez. Ça fait partie de votre jeu, de ce que vous apportez à Alice Nevers ?
Il y a eu plein de phases dans Alice Nevers, parce que je l'ai quasi incarnée pendant 20 ans, donc... En fait, j'ai l'impression que j'ai grandi avec les femmes dans toute cette condition féminine. Enfin, j'ai accompagné un peu. Donc, au départ, c'était Alice Nevers, le juge est une femme, parce qu'il fallait quand même ajouter
ça.
Je suis battue pour l'enlever il y a quelques années, quand même.
C'est dingue.
Et donc, comme j'étais jeune comédienne, il fallait que je sois irréprochable. Enfin, il fallait que j'incarne cette fonction et c'était compliqué. Donc, il fallait que je sois absolument parfaite et lisse.
Ce qui est fou, c'est que la crédibilité dans la vie sociale normale, c'est-à-dire de dire, je vous assure, c'est une femme qui est responsable, c'est une femme qui est juge, c'est une femme qui est patronne, même dans la fiction, et vous dites même l'actrice devait là aussi le montrer, quoi, l'imposer.
Oui, il fallait l'imposer, puis c'était une époque dans la télévision aussi où les héroïnes TF1 étaient des héroïnes assez parfaites, quoi. On a beaucoup évolué, et donc j'ai l'impression comme ça d'avoir évolué aussi avec la condition des femmes, qu'il est beaucoup demandé quand on a des postes de pouvoir, et d'avoir évolué aussi avec les femmes ont évolué dans leur sphère privée, professionnelle, voilà, et puis... En fait, l'évolution des femmes accompagnait l'évolution aussi de la fiction, c'est-à-dire des formats. On est passé aux 52 minutes à un moment donné sous la pression des séries américaines qui sont arrivées sur le marché, qui étaient plus modernes.
Et là, ça change quoi ? Le rythme, le tempo,
le rythme
du jeu même.
D'écriture, voilà, de jeu. On a relooké complètement la série. Ce qui a fait aussi qu'elle dure aussi longtemps, c'est qu'on a réussi à muer, quoi, à aller vers ça. Et donc, tout d'un coup, j'ai le droit à une vie privée, parce qu'avant, on diffusait l'histoire dans le désordre. On n'avait pas de vie privée. Voilà. Donc là, tout d'un coup,
vous étiez privé de vie.
On a gardé de vie, exactement. Exactement. C'est ça. Et donc, on a commencé à broder autour de ça et j'ai eu quand même une autre vie, quoi, en passant parfois la ligne rouge, en allant vers des zones qui n'étaient pas prévues.
Quand vous dites on, ça veut dire que vous étiez en mesure de demander, d'envisager avec les scénaristes la vie intime de votre personnage.
Voilà. Moi, j'ai pas accès au scénariste, mais à la directrice de collection, qui est la personne et le producteur qui décide des arches de la vie privée des saisons, voilà. Et donc, on construisait ça, on décidait ça ensemble, donc on discutait ça. Et alors, c'est assez particulier parce que il n'y a pas de showrunner en France. En tout cas, moi, j'ai pas vécu ça. Donc, ça fait 20 ans, en gros, que j'ai une série.
On va expliquer le rôle de showrunner. C'est quelqu'un qui est responsable
De tous les auteurs.
Ouais, de la Bible, de l'éthique, en tout cas, ou de la direction que prend et les personnages et la série.
C'est ça, et surtout aussi, c'est des gens qui sont sur le plateau, qui viennent au combo et qui disent au metteur en scène qui passe, voilà, je veux cette direction artistique, on veut cette lumière, une unité en fait, dans une
cohérence.
Sorte d'unité.
Parce qu'il, dans certaines séries, ce ne sont pas toujours les mêmes réalisateurs d'un épisode à l'autre, ce ne sont pas toujours les mêmes scénaristes aussi, donc il faut garder une cohérence, et c'est le rôle de ce monsieur appelé showrunner, qui n'a pas d'équivalent en français d'ailleurs.
Non.
Le coureur de spectacle.
Oui. Ça commence à arriver, mais moi j'ai détenu 20 ans d'une série sans ça, donc en fait au bout d'un moment c'était un peu moi le...
Bien sûr.
Pas le showrunner, non, mais le fil lien. Rouge. Ouais. Voilà. Donc les metteurs en scène arrivent en disant tu crois qu'on peut faire ça quand même, on ose, etc. Et moi j'ai toujours pousser les nids, et j'aime oser, et j'aime que quelque chose se passe, et même au niveau du jeu, donc si ça va pas, on change les dialogues, on improvise, voilà. Donc
on vous a refusé déjà quelque chose, est-ce que ce soit la chaîne ou les auteurs, on vous avait dit, ça serait bien qu'elle ait telle expérience.
Forcément
ou,
oui.
Est-ce qu'on vous a dit non?
Sur l'écriture?
Sur une intention en tout cas, ou sur un jeu, ou sur un happening?
Non, on ne m'a jamais refusé...
La scène d'immolation, par exemple, que vous aviez proposée dans vos soirées sorcières.
parce qu'on a été loin quand même. J'ai des histoires pas possibles avec un mec en tôle. J'ai fait des trucs fous. Enfin, j'ai été hors la loi dans cette série aussi, dans ma vie privée. Non, bizarrement, le seul truc qu'on m'a... Au début, quand je suis arrivée, on m'embêtait avec les vêtements. Je n'étais pas du tout habituée à ça, parce que je venais du cinéma où on crée des costumes, vraiment. Ouais. Et là, on m'a mis une sorte de moule qui ne me plaisait pas du tout. Mais sinon, après, je me suis défendue.
Très bien.
C'est très dur de m'imposer des choses.
Et alors, pour en revenir à ce sourire, est-ce que... Ça avait l'air de vous surprendre quand j'avais remarqué ça. Est-ce que c'est... Parce qu'on se demande si c'est un sourire d'ironie ou d'empathie, en fait, quand vous le portez au début pour interroger les premiers suspect de la série.
En fait, c'est étrange parce que c'est un final, mais en même temps, c'est un début puisque, comme mon partenaire est en immersion, ce qui n'est jamais arrivé, on m'a fait travailler avec un nouvel acteur. Je suis en binôme avec Laurent Gamelon qui vient enquêter avec moi, un nouveau légiste. En fait, comme je change de vie dans cet épisode et qu'on part en Normandie, on quitte Paris, j'avais plein de gens nouveaux. Et donc, une façon, c'était rigolo pour moi d'arriver avec un peu la parisienne, un peu survoltée, un peu hyperactive,
pas bien accueillie. Voilà.
Avec des provinciaux, dont un commissaire au bord de la retraite. Donc, en fait, le sourire, il vient aussi de ma collaboration un peu nouvelle et de me confronter à une vie provinciale beaucoup plus douce.
Il y a, en effet, parmi les nouveaux, ou en tout cas les guests dans cette série, pour ces deux derniers épisodes, Laurent Gamelon et Garance Steno, que j'ai également adoré à vos côtés. Il y a des face-à-face toutes les deux où ça fait du bien de voir deux excellentes comédiennes échanger des dialogues. Ça joue grave et c'est demain à 21h10 sur TF1. Ce final qui est très particulier parce que la deuxième partie, au-delà de la résolution, il y a presque un côté célébration. Voilà, je ne veux pas tout dévoiler dans Alice Nevers. Ça sera demain sur TF1. Mais tout de suite sur France Inter, Morgane Cadignan.
C'est pas fini.
Et elle vous aime pas, mais pas du tout. Non, on a trouvé une qui vous aime pas.
Marine Delterme, je vous aime pas parce que on m'aurait menti. Alice Nevers, le juge est une femme. Marine Delterme, mais ça voudrait dire que depuis le début, vous vous appelez pas Alice Nevers, que vous êtes pas juge, vous êtes une femme au moins. Non, mais la série, elle dure depuis presque 20 ans et j'ai un peu plus de 30 ans, donc je dis pas que ça m'a accompagnée, mais presque quoi. Puis quand même, c'était quelque chose à l'époque, c'était un modèle de femme, parce qu'en 2002, les femmes dans un premier rôle qu'incarnent des femmes importantes dans des métiers d'habitude incarnés par des hommes, mine de rien, bah moi, sans m'en rendre compte, ça a un peu marqué mes jeunes années. Alice Nevers, le juge était une femme, Diane, femme flic, Dr Quinn, femme médecin, c'était l'époque où où c'était si rare qu'il fallait un peu le préciser. Maintenant, ça serait ridicule de dire Leïla, femme journaliste. Ou Morgane, femme. Ouais, en plein jour, ça reste à prouver. Ah là, ça rigole. Hein. Donc, pour ce double épisode.
Moi, j'ai pari.
Pour ce double épisode final, dans la partie 1, votre partenaire, donc Fred Marquand, infiltré dans un haras, tombe sur le corps sans vie d'un jeune jockey. Bon, vu le prix des cercueils, t'es content quand ton cadavre, c'est un jockey. Une boîte à chaussures de Tony Parker avec un petit Kleenex bien mis au fond et le tour est joué. Bah, pardon. Non, mais c'est glauque, mais ça sera moins onéreux d'inhumer Fanny pour moi que Daniel. Plus de larmes, mais moins de bois. Et c'est le début d'une enquête qui va durer 2 épisodes et signer la fin d'une série qui dure depuis près de 20 ans. Et je trouve ça dingue, cette longévité dans la fiction, quoi. Aujourd'hui, ça devient rare. Qui peut dire en 2022 ce qu'il y aura encore à la télé dans 20 ans? Est-ce qu'il y aura encore la télé dans 20 ans avec Nagui sur France 2 qui commencera tristement à oublier les paroles pour de vrai? La tristesse. Il a bloqué les ravioles. Mais non, papy, c'est les paroles, tu sais. Ça doit être étrange, mais de se séparer d'un personnage après tant de saisons. Hélène Pompeo, par exemple, qui joue Meredith Grey dans Grey's Anatomy depuis 18 saisons. Je suis sûre qu'au fond, la meuf, quand on demande s'il y a un médecin dans l'avion, elle se lève un peu. Tu vois, elle a fait Actor Studio, hein, donc une trachéotomie avec un crétarium et de la bétadine. Bah oui. Si t'as été attentif au masterclass à 5 000 $ de De Niro, tu t'en sors. Franchement, Marine, je suis sûre que si quelqu'un crie Alice dans la rue, vous vous retournez une fois sur deux. Ce qui marque l'histoire de la série, c'est également la fidélité des spectateurs. Parce qu'une série sans spectateurs, bah, c'est la série de Gad Elmaleh sur Netflix. 119! Non mais là c'est fou, 119 épisodes diffusés sur TF1 depuis 2002, c'est pas exagéré de dire qu'une page se tourne pour Alice mais pas pour Marine. Vous vous envolez vers d'autres projets pour France 2 notamment, belle manière de remercier TF1 pour cette double décennie. Mais moi je soutiens totalement la démarche, hein, pour remercier Nagui et Inter des 2 années de chronique, je présente la matinale sur RTL et ce dès septembre. Eh ben, donc le double épisode final c'est demain à 21h10, dire au revoir à quelqu'un qu'on connaît depuis presque 20 piges un jeudi soir de février, c'est franchement mieux quand c'est un personnage de fiction. Donc au revoir Alice, bonjour Marine et bonne émission les autres.
Merci Morgane.
Merci. Et donc l'humoriste est une femme, Morgane, samedi 12 à Courmont et c'est à la Baie des Singes.
Exactement, en Auvergne.
Voilà, en Auvergne.
Alors justement, quels sont pour et la raison, quels sentiments vous ont bercé lorsque vous saviez que vous allez tourner? Alors peut-être pas la dernière série ou les 2 derniers épisodes, mais la dernière scène, il y a dû avoir quelque chose. Quand vous étiez dans la voiture en vous dirigeant vers le tournage de la dernière scène, même si c'est pas la dernière dans la série, oui. On est d'accord, la dernière dans la feuille de service, ça a dû picoter un tout petit peu, non ?
Non, mais vous trompez un petit peu parce qu'en fait la dernière scène c'était vraiment la dernière scène. C'est en fait le mariage, on l'a mis le dernier jour de tournage.
Ah, vous balancez l'info, d'accord. Okay. Ceci dit, on en parle. Non. Mais c'était évoqué.
C'est dans le résumé. Si.
C'était évoqué.
Et donc c'était très étrange parce que c'était comme un vrai mariage en fait. Il fallait réunir tout le monde, tous ces acteurs qui ont été là pendant 20 ans et c'est pas simple entre les emplois du temps, etc. Donc j'ai appelé beaucoup
Santini.
De monde.
Il y a Santini qui revient, ouais, c'est génial.
Jandel, Armé, ouais. Binard, tous les gens qui étaient avec moi. Et donc j'étais comme un vrai mariage, excitée qu'ils soient là, émue. Et puis je voulais faire une surprise aux spectateurs, j'ai insisté, j'ai appelé la veille le metteur en scène et le producteur en disant « je veux ». Ça a été dit déjà, donc je peux le dire, hein, une
comme
fois. Enfin, je veux parler aux spectateurs, je veux leur parler dans les yeux. Donc je vais faire une partie du discours
aux invités.
Voilà. Et donc j'avais un peu les jetons parce que c'est assez impressionnant de se dire je vais rentrer dans l'œil de la caméra et je vais parler aux gens qui me suivent depuis des années.
Ce qui ne se fait jamais, on appelle ça des regards caméra qui sont bannis, qui sont défendus, à moins d'être écrit, à moins d'être voulu et décidé.
Mais c'est vrai,
c'était votre décision.
Et ça marche hyper bien.
Ils ont eu un peu peur et puis ils m'ont dit ok, voilà.
On vous sent encore ému de l'évoquer là maintenant.
Ouais, c'était émouvant parce que fallait pas que je me rate quoi. J'ai eu 2 prises. Et puis du coup, mon partenaire s'est associé et a dit quelque chose. Mais c'était important pour moi. Voilà, c'était important de dire que je serai toujours avec eux. Comme moi, petite, j'ai grandi avec les séries et c'est des acteurs et des histoires qui sont encore avec moi. Et donc ça reste.
La question que se posent évidemment les amoureux de la série et les fans des audimats et des résultats d'Alice Nevers, c'est pourquoi ?
Pourquoi on arrête ?
Ben oui.
En fait, c'est la concordance de 2 choses. C'est la politique éditoriale de TF1 qui, à un moment, et c'est normal, veut lancer des nouveaux programmes. Donc après 20 ans, donc c'est pas la place, c'est pas incompressible hein, sur une chaîne. Il faut à un moment enlever quelque chose pour avoir l'espace pour des nouvelles séries, pour essayer des nouvelles choses. Et puis ça tombait aussi au moment du confinement, c'est-à-dire que moi je me suis comme plein de Français et le monde entier posé pendant cette parenthèse, enchantée ou pas enchantée d'ailleurs, Mais et donc et je me suis aussi dit voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie,
quel est le mérite de au moins de se replier sur soi, de se poser quelques questions qu'on ne se posait pas avant,
de faire le point,
voilà, de faire le point, de s'arrêter, de me dire mais en fait ça fait quasi 20 ans,
malgré la catastrophe mondiale et malgré les décès, les maladies et les personnes qui en ont souffert. Il y a eu un autre côté, une autre face. On peut pas appeler ça le bon côté de la pandémie, évidemment. Il y a que des mauvais côtés. Mais ça a permis à certaines personnes de se poser des questions, voire de changer de vie.
Ou de déménager,
ou de sortir de la ville.
Et vous, bien sûr.
Et vous
aussi, alors.
Et donc, voilà, je me suis posé la question de me dire aussi que, voilà, qu'est-ce que je fais de ma, c'est quasi 20 ans. Donc j'ai aussi envie d'autres choses, d'autres projets. Et donc, j'étais en train de me dire aussi qu'il était temps que j'arrête et que je fasse autre chose. Et donc, ça s'est très bien trouvé.
Mais c'est une question que vous avez dû vous poser avant aussi, j'imagine.
Oui, mais quand on est pris dans la frénésie des tournages, on est engagé sur plusieurs années, on a un timing, voilà, on se pose, comme dit Nagui, peu de questions en fait. La vie passe vite, on a plein de choses à faire, et on a le temps de se poser, de prendre des décisions aussi importantes, de dire j'arrête. Donc ça tombait absolument au même moment.
Quels sont pour vous les ressorts, ce qui fait justement l'ADN d'Alice Nevers, en termes de suspense, en termes de manière de raconter l'histoire, de procéder aux enquêtes, d'avoir le point de vue du juge, enfin d'avoir tous les points de vue, mais d'avoir le point de vue du juge en lead?
Il y a plusieurs choses qui font... Enfin, d'abord, le succès, qu'il soit, c'est toujours un peu mystérieux et
c'est
miraculeux.
C'est une alchimie inexplicable.
Voilà. Ouais. Mais quand j'ai commencé, moi, je venais du cinéma et Takis Candilis, qui était le directeur de la fiction à l'époque à TF1, m'avait dit, avant la première div, si ça prend pas, t'inquiète pas, c'est une actrice et un public, c'est comme une greffe. Mmh. Et le grand public, pour plaire vraiment au grand public, il y a une sorte de mystère et de miracle qui fait que les gens voient en une actrice quelque chose qui leur plaît. Le seul moyen pour toi d'y arriver, peut-être, c'est donner quelque chose de très juste et vrai de toi. C'est pas un rôle, tu pourras pas faire de la composition.
De pas tricher.
Voilà. Mmh. Donc, faut que tu mettes quelque chose de toi dans ce personnage. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, il y a peut-être ce petit miracle qui fait que tout d'un coup, on accroche à une héroïne, à quelque chose qu'elle raconte, on a envie d'aller avec elle, pousser des portes. Après.
Mais alors, pardon, qu'est-ce que vous êtes allé chercher, justement? C'est cette douceur, ce sourire, c'est une manière de le faire en intelligence plutôt qu'en agressivité?
Oui, un petit peu de nuance, c'est vrai. J'aime bien quand c'est compliqué, la vie est complexe, les êtres sont complexes, puis quand on incarne un juge...
Heureusement que vous connaissez ma femme, que je connais votre mari et que tout est clair, parce que là j'étais juste en train de lui faire une espèce de déclaration de douceur, d'intelligence, pas du tout.
Gentil.
Non mais je vous en prie, c'est sincère, vous savez.
Non mais j'ai perdu le fil, Nagui.
Il y a un petit trouble là, en ce moment. Hein.
Mais que nous arrive-t-il? C'est quand même ballot.
C'est pas le plat, en tout cas.
Ouais. Ah, ça devient gênant.
Non, c'est gênant, oui. Non, en fait, après, il y a une façon de... C'est Pascal Bruno qui produit cette série et qui est une grande dame de la télévision. Et qui
a été directrice de fiction aussi.
Voilà, à TF1, qui a créé France Télévisions, enfin France 2, enfin qui est vraiment... Et elle aime le sociétal. Et le mode de production de la télé est formidable, puisqu'on peut coller à ce qui se passe. On a un mode de production très court. Mmh. Donc, on a été à fond dans cette force-là dans la série. Donc, chaque épisode permet traiter d'un sujet de société qui est très concret et très récent. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de bonheur aussi pendant ces années à pousser la porte de plein d'univers, comme là, le monde du
monde des caisses. Parlons de l'intrigue aussi de cette série, parce que ce qui est vraiment prenant, c'est qu'en plus de voir, j'allais dire, une énième enquête, mais enfin, le genre veut ça. Quelqu'un est tué, on fait une enquête, il faut trouver le coupable. On a trouvé le coupable, merci, au revoir. Ok, mais pour le reste, on rentre vraiment dans le milieu de la compétition, certains disent dressage, d'autres disent éducation, mais il y a quand même aussi le dopage qui est en filigrane dans cette histoire-là, en se demandant mais est-ce que les chevaux sont dopés, est-ce que les jockeys sont dopés. Et alors moi, ce que j'ai appris, j'ignorais totalement, c'est cette espèce de pression du poids pour un jockey, cette espèce de pression de l'énergie du physique où ils prennent des amphés, où ils se font vomir, où ils font des cures d'amaigrissement parce qu'ils ont qu'un jour ou deux pour perdre 3-4 kilos quand des gens mettent 2 ans pour le faire. Enfin, c'est fou. C'est une enquête dans l'enquête, j'ai envie de dire.
Le monde du mannequin,
on n'est pas loin de ces dictates-là et c'est très très oppressant et violent. Et la première scène que j'ai tournée, moi, c'était la pesée en public de ces jeunes acteurs. Très émouvant d'ailleurs, parce qu'en plus, c'est des acteurs qui sont jeunes. Donc déjà, qui ont un gabarit fragile et émouvant et qui en plus sont d'une grande jeunesse, donc très fragiles. Et donc on les voit se faire peser, on voit justement un ou deux jockeys retoqués à 100 grammes, où on dit bois un verre d'eau, et puis tu vas... Enfin c'est quand même, c'est très oppressant, et c'est très compétitif.
Et tout ça est vrai, étayé de la réalité du milieu.
Voilà, et on est dans une course, il y en a qu'un qui gagne, et c'est un peu une image de notre monde contemporain, c'est très violent quand même.
Oui, c'est d'autant plus violent qu'ils jouent entre guillemets leur vie, leur notoriété, leur salaire, l'argent est toujours la clé de ce genre aussi de problèmes.
Et puis ça déshumanise totalement la personne, le jockey comme le cheval.
À quelques kilos près, donc à quelques résultats près, soit... Tu restes à 500 euros à t'occuper du foin et à nettoyer le purin, soit tu gagnes 10 000 euros par course et il peut y avoir 4 courses par semaine et d'un coup là ça devient...
Oui, puis c'est l'entraîneur qui décide, voilà. C'est ça qui est violent, c'est comme si un chanteur, on lui dit tu fais pas l'Olympia, toi c'est toi qui le fais ce soir, toi c'est pas toi, c'est-à-dire qu'en fait l'entraîneur apparemment dit dans les 5 jockeys c'est toi qui feras la prochaine course parce que je l'ai décidé, parce que t'es meilleur, parce que t'as le poids, donc ça fait une compétition entre jockeys aussi qui a l'air assez difficile.
Et toujours avec ce rapport particulier à l'argent, les employés sous-payés, les lades, ceux qui entretiennent les écuries et qui s'occupent des chevaux pour quelques centaines d'euros par mois, sont employés par des milliardaires qui, eux, sont dans des châteaux, ont des haras, et finalement, pour eux, c'est de la chair à canon, ils s'en
quand tu as ces milliardaires, si tu distribues tout ton fric, il y a un moment, il faut être rapide.
Non mais après,
vivement que tu sois président de la République.
Oh, là, oui.
soit dit en passant, dans pas mal d'entreprises et quelles qu'elles soient, il y a des gens qui gagnent beaucoup 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 moins que ceux qui en sont à la tête, quoi. Donc
oui, mais il y a quand même il y a des grilles dans les entreprises, il y a des grilles de salaire, il y a des syndicats, il y a des choses qui
ça dépend ce qu'on y fait, quoi.
Oui,
quand on
ça.
Fait les ménages dans une entreprise, on a les grilles de salaire. Souvent c'est une entreprise extérieure, c'est l'équivalent d'un LAD à mon avis dans un haras avec des jockeys.
Sûrement,
à mon avis le ratio il est pas loin.
Mais c'est ce qu'on avait vu avec Juliette Binoche dans le film.
Mais comme tout milieu, comme le mannequinat, où il y a des envies de gloire aussi, des envies une passion.
De reconnaissance
en fait,
aussi.
Une passion et de la reconnaissance, on peut aller très loin dans la destruction de l'autre.
Tout ça est dans Cavalcade, parce que il y a aussi cette intrigue. On parle beaucoup du final, on parle beaucoup des guests qui reviennent. J'ai envie de dire, c'est quelques minutes de larmes et d'émotions.
Quelques minutes.
Voilà, de larmes et d'émotions pour la fin du deuxième épisode. Mais sinon, la tension du policier en lui-même, de cette
et
enquête.
L'univers est très fouillé, très développé.
Ouais. Et puis j'adore.
Non, c'est très bien fait. Puis il y a Paul Bartel. Enfin, il y a des supers acteurs.
Et Laurent Gamelon qui est parfait aussi, parce qu'on se pose des questions de savoir de quel côté il peut être celui-là. Oui, parce qu'il n'est pas très agréable quand il vous accueille au début, il n'aime pas beaucoup les juges.
Et puis en fait c'est un mariage mais c'est un divorce, parce que c'est fini. Donc votre partenaire que vous avez vu pendant 20 ans, c'est pareil.
Ah ouais, c'est dur hein.
Bah ouais.
C'est dur hein, de se dire au revoir comme ça. Parce que je l'aime, Jean-Michel. Bah il est merveilleux, quoi. Ouais. On a tellement.
Il reste portable quand même.
Oui, on se voit. Mais c'est pas pareil.
Non, mais il y a eu quand même il y a eu un parallèle avec votre vie, quand même. Hein. Vous le racontez dans des interviews. Quand vous avez été véritablement enceinte, il a vraiment fallu mettre en scène cette grossesse dans Alice Nevers. Donc.
C'est Jean-Michel.
Non, j'ai pas dit ça. Mais en tout cas, l'âge de votre enfant équivaut à peu près le même âge que le garçon qui joue votre enfant dans la série. Donc il y a quand même. Pas mal de choses assez troublantes.
C'est drôle parce que j'ai fait une autre série qui s'appelle Manipulation sur France Télévisions. Et Jean-Michel lui-même me dit, je peux pas regarder, t'embrasses un autre mec, un autre acteur, c'est juste pas possible.
C'est génial.
Une autre partenaire, c'est pas possible. Un autre, non.
On va continuer d'évoquer évidemment Alice Nevers et la carrière de Marine Delterme jusqu'à midi et demi. Il y aura tout à l'heure la bande originale de La Vie de Marine Delterme. Et puis nous recevrons également Mayol Kerr, qui est fondateur et dirigeant du Jour de Galop, un quotidien consacré aux courses et à l'élevage justement dans ce milieu-là. Et on s'intéressera et on parlera avec lui de tout ce qui peut se passer dans le monde équestre. Mais d'abord, voici Fanny Ruet.
Coucou les pipous.
Coucou.
L'autre jour, je lisais un article du New Yorker, que je lis très peu, mais juste assez souvent pour pouvoir dire des fois, je lisais le New Yorker. Et aussi pour avoir le tote bag floqué. T'es obligé d'avoir un tote bag floqué New Yorker quand t'es bisexuel. Genre, ça fait partie du kit de bienvenue, en fait. T'as le tote bag, t'as des Vans, t'as un coffret DVD de The L Word, une chemise à carreaux, un guide de la communication non violente et des piles. Pour quand tu sors quand même avec des hommes, enfin voilà. Bref. Donc je suis tombée sur un article du New Yorker au sujet d'un concept qui s'appelle Get Lost, donc perds-toi. Et en fait, un concept, c'est comme des vacances, mais assez extrême, puisque vous vous pointez à l'aéroport, on vous bande les yeux, on vous emmène dans un endroit que vous ne connaissez pas, sans que vous sachiez où vous êtes.
Il y a Frédéric Lopez.
Non, mais en fait, c'est rendez-vous en terre inconnue, mais sans Vianney. N'importe qui peut le faire pour la modique somme de 15 000 $. Vous pouvez juste choisir le type de destination, la jungle, le désert, la montagne, la mer et tout, et on vous lâche là-bas, perdu, sans rien, pendant plusieurs jours, et vous devez vous démerder, manger, construire un abri et tout, avec évidemment une personne de l'organisation qui vous suit de loin pour être sûr que vous ne faites pas bouffer par un python. 15 000 balles. Mais vraiment, ouais, mais t'es tout seul, là, t'es bien content d'avoir des piles. Et grâce à cette expérience, bah, tu te retrouves seul avec toi-même, t'apprends à te connaître, à puiser en toi la force pour arriver au bout de ce voyage et tout. Mais ma première réaction a été, est-ce bien nécessaire? Finalement, parce que être seul dans un milieu hostile, c'est déjà le principe de la vie, en fait. Genre, t'as ton entourage qui te regarde de loin, mais t'es seul, t'as froid, tu sais pas où t'en es ni où tu vas. Tout ce que tu sais, c'est que tu peux crever à tout moment et que ça te coûte vraiment cher. Donc, en vrai, ce concept, il me déprime un peu. En fait, c'est pas rendez-vous inter inconnu, c'est Koh-Lanta, sauf qu'à la fin, c'est toi que tu veux éliminer, concrètement. Et puis, de toute façon, c'est pas nécessaire d'aller si loin. En vrai, c'est pas nécessaire, parce que si t'as envie de solitude, il y a plusieurs solutions. Genre, avoir ma personnalité, ça suffit, les gens ne viennent pas. Ou bien si tu veux encore être plus seul, sans réseau, sans rien à manger, va à Mâcon un dimanche. Parce que là, moi je suis en tournée, j'ai tenté Mâcon un dimanche. Et ben, je peux dire que tu remets tes choix de vie en question quand tu manges un sandwich triangle à la station service de Mâcon. Et puis de toute façon, j'ai réfléchi un peu plus au sujet de ce concept Get Lost et tout, et je trouve juste ça fou qu'aujourd'hui on ait tellement d'options, de stimuli de partout qu'on est prêt à payer pour ne plus en avoir, en fait. Ou alors à l'inverse, en fait, on ressent tellement de choses en permanence qu'on est comme anesthésié, qu'on a besoin de choses plus extrêmes pour ressentir quoi que ce soit. On a besoin de risques et tout. D'ailleurs, ça m'a donné une idée, marketing, c'est de lancer une gamme de yaourts goût du risque, et sur l'étiquette, il y aurait « ne contient aucun allergène, sauf un ».
C'est génial.
Et il serait différent à chaque fois.
C'est après le yaourt bulgare, le russe.
C'est ça. Ouais, c'est une recette russe. Donc voilà, jackpot. N'hésitez pas à me contacter pour financer tout ça.
La roulette russe en yaourt.
Pour participer à Get Lost, je pense qu'il faut une force d'esprit que je n'ai pas. En fait, il faut une force. Genre l'autre jour, moi, je me suis endormie dans le Thalys, donc j'avais enlevé mes lunettes, et en me réveillant, je les trouvais plus. Et vraiment, après 3 secondes, j'ai fait basse. Je vis ici. Je vais passer les 20 prochaines années à juste avancer à tâtons de wagon en wagon. Je vais devenir la Mimi Géniard du Bruxelles-Paris. Mais vraiment, je pense qu'il faut une débrouillardise. Je sais où est la chambre des secrets. Bref. Il faut une débrouillardise de zinzin pour participer à ce truc et tout. Il y a 2 mois, j'ai voulu accrocher chez moi des stores. Eh ben, ça fait 2 mois. Maintenant, j'ai juste 2 trous dans le mur. Tu les as vus. Et des voisins qui vont bientôt porter plainte. Donc, je me dis que franchement, ça peut être pas mal, en fait, ce concept Get Lost et tout, de prendre du temps pour penser, pour réfléchir, mais surtout de réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire de mieux avec 15 000 $.
Ouais, c'est ça. Merci, Sophie.
Et wagon.
Ce qui est fou, c'est que quand on connaît un peu Fanny Ruet, tu vas me confirmer, Morgane, on sait que les 3/4 sont vrais de tout ce qu'elle raconte.
Ah, mais les stores, t'es réveillé à 5h30 du matin.
Et on te retrouve, Fanny.
Ouais, à Mâcon, dimanche matin.
Non, c'est Bruxelles-Paris.
C'est ça, à 4 pattes, entre les wagons.
Toujours.
Brest, Caen, Auray, Lille et La Rochelle, ce sont voilà, les dates où tu vas te produire bientôt.
Oh, le yaourt.
Les lieux, quoi. Ouais.
Alice Nevers, c'est demain sur TF1, réalisé par Chris Briand. Avec évidemment Marine Delterme qui est notre invitée jusqu'à midi et demi. Il y a Jean-Michel Tinivelli, Laurent Gamelon, Garance Steno, Paul Bartel, Tom Hudson, Grégoire Champion, Jessiriel Massengo, Célim Klessen, Sabine Pacora, Lorena Tellier, Amélie Romain, entre autres dans cette série qui a été tournée en période de confinement.
Non, période de Covid, mais pas confinement, non.
Non, est-ce que ça
c'est l'enfer, le est-ce Covid que ouais, sur les tournages.
Ça change
l'enfer.
Beaucoup de choses dans la manière de travailler quand on est actrice.
Ben oui.
Ça prend du temps, j'imagine.
Parce que on est arrêté, parce qu'on est qu'à contact, parce que moi j'ai déjà vécu sur deux séries d'être exfiltré. On fait les tests le matin et puis tout d'un coup l'infirmière vient en disant faut que tu partes tout de suite, t'as le Covid. Alors on te prend ton sac, on te sort de
Vous
la scène.
Vous l'avez eu deux fois d'affilée?
Non, je l'ai eu sur deux tournages différents. Enfin une fois qu'à contact, donc on m'a sorti. Une fois okay. Covid qui a duré deux jours. Mais enfin bon, voilà, c'est assez violent
mieux,
en fait.
Tant mieux pour vous, c'est ça.
Ouais. Ouais. Et puis tout le monde est masqué.
Est-ce que je veux dire, voilà, est-ce que ça change le jeu? On se tient moins la main, on s'embrasse moins et on change les distances, enfin que sais-je.
Ouais, peut-être. Peut-être qu'inconsciemment, on est moins... Enfin, en même temps, quand on doit jouer une scène tactile, on le fait. Non, après, on oublie. Non.
D'accord.
Ça, heureusement. Mais bon, voilà, c'est pas très facile, mais on n'est pas les seuls.
Deux épisodes demain soir d'Alice Nevers. Les deux derniers épisodes avec un grand final. Marine Delterme dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que vous passez par tous les états. Vous parliez tout à l'heure des vêtements, ça joue aussi. Et puis cette robe de mariée pour le final est absolument romantique et ravissante. Et elle vous va tellement bien.
Merci.
La musique dans la vie de Marine Delterme avant
elle est jalouse
de recevoir.
Non, jalouse pas du tout, mais c'est, je pense à quelqu'un d'autre, quoi. Mais bon.
Mais non, mais elle se connaît, t'inquiète pas. Il y avait dans les années 70.
Raison, hein. Voilà, merci. J'ai rien dit.
Mais c'est fini, oui. Peut-être même
il y avait donc des années 70, Stevie Wonder.
Ah.
Dans la vie de Marine Delterme.
Isn't she wonderful? Isn't she
precious? Ce genre de musique que vous écoutiez, que vos parents écoutaient à la maison?
Non, ma mère, c'était Michel Fugain ou...
Ah, pourquoi avoir choisi Stevie Wonder pour symboliser
petite.
les
ah,
enfants?
Ah, parce que je l'écoutais jeune quand même, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est mes cousins moi, j'ai une bande de cousins qui m'a initié à la musique, donc ils m'ont tout...
Et puis c'est une chanson pour sa fille. On entend ses cris de bébé, on entend donc vous, la fille unique, et cette dynastie de filles uniques aussi, ça résonne?
Oui, beaucoup de solitude, mais très très armée pour la solitude et la remplir. Donc plein de rêves, plein d'imaginaires.
C'était pas joyeux d'être toute seule, de pas avoir de frères ou de sœurs.
Ça m'a beaucoup manqué. J'ai trouvé ça très. Ouais, mes parents ont fait ce choix.
Ouais.
C'était important pour moi d'avoir pas qu'un seul enfant, en tout cas essayer.
Ouais.
J'ai deux fils, donc je suis très contente.
En 1988, quelle programmation musicale, vous écoutiez les Stones. Les Rolling Stones, vous les avez vus en concert déjà? Vous êtes fan ou c'est une musique qui vous rappelle quelque chose en particulier?
Non, je les ai vus en concert, souvent, j'ai eu la chance de le croiser lui, et voilà.
Vous avez été la collab de Carla Bruni à New York, donc je pense que vous l'avez croisé.
J'ai un peu croisé.
C'est-à-dire qu'elle a vu du monde. Quand on est colloque de Carla Bruni, on voit du monde.
Et sans doute aussi de Marine Delterme.
J'ai mes amis aussi.
Voilà, c'est ça.
Non, mais ce que je veux dire, sur Carla, pour l'anecdote, au moment où elle avait sorti, quelqu'un m'a dit on organise une émission ensemble à Taratata et je lui envoie un texto avec est-ce que tu me confirmes que demain tu veux reprendre aussi telle chanson, machin. Et la personne me répond en disant je crois que vous voulez écrire à Carla Bruni, ceci n'est plus son numéro de téléphone. Si vous pouviez d'ailleurs lui préciser, lui demander qu'elle informe tous ses amis, je suis ravi d'être réveillé à 3h du matin par Mick Jagger, mais je ne suis pas Carla Bruni. Parenthèse close.
Et ce sont les années mannequinat, Marine. Après le bac, vous vous inscrivez à la fac de droit d'Assas. Et puis vous êtes remarquée par un agent japonais qui vous demande de rejoindre une équipe, une agence de mannequins. Et vous êtes, vous commencez à travailler. Les plus grands photographes, vous les avez rencontrés, que ce soit Richard Avedon, Peter Lindbergh, Paolo Roversi. La liste est très très longue.
Dominique Isserman,
notamment.
Pour revenir en France.
Oui, en France. Et comment vous avez vécu cette période-là ? Vous êtes une jeune femme. On est dans un dans une période où tout d'un coup c'est le corps qui doit énormément compter. Et il faut s'assumer dans son corps. Il faut être heureuse avec. C'est on est une jeune femme quand même.
J'étais un peu ronde pour ce métier, d'accord. Mais du coup j'ai eu la chance de pas faire de défilé, mais de travailler avec tous ces photographes. Et comme moi, j'ai été élevée par des parents qui sont très artistes, en tout cas des peintres et tous les deux dessinateurs. J'ai été élevée, ma mère m'emmenait, j'ai toujours dessiné, j'ai sculpté plus tard. Donc j'ai été dans les ateliers voir des modèles posés pour pour ma mère, et puis moi je me mettais à côté. Donc je posais enfin pour d'autres, j'avais beaucoup voilà, donc c'est quand on travaille avec des grands photographes, on a une aventure artistique quand même, on rencontre des gens qui ont un œil incroyable et qui vous mettent dans un univers, une lumière, où c'est une collaboration que j'ai trouvée extrêmement enrichissante.
On a parlé de Carla, il faut parler de Valeria aussi, Bruni Tedeschi, parce que finalement ces deux femmes ont, ont un rôle important dans votre vie, dans votre chemin.
C'est drôle, hein. C'est Valeria, elle m'a pris par la main et voilà, j'ai dit j'aimerais bien quand même être comédienne parce que j'étais très cinéphile et puis je rêvais d'être dans un univers plus visuel que le théâtre. En tout cas, je suis pas venue à ce métier par les textes. Je suis venue vraiment par l'image. Et Valeria, voilà, qui est une merveilleuse comédienne, m'a pris par la main et a emmenée dans tous ces stages qu'elle faisait. Et je l'ai regardée travailler et puis j'ai essayé de travailler aussi.
Leïla disait que quand on est dans ce milieu-là et qu'on est sujet au regard et au regard sur soi déjà, mais qu'on essuie aussi le regard des autres, on doit se retrouver aussi dans des situations pas toujours très confortables. Et on a appris des années après que certains photographes étaient, on va dire, profités de leur...
Pas seulement qu'on puisse dire.
Oui, de leur position. Je ne veux pas accuser tous les photographes d'être des prédateurs. Mais est-ce que, quand vous avez vu et entendu ces noms sortir, vous étiez surprise ou pas étonnée, ou ça se disait, ou tout le monde savait ? Est-ce que vous-même, vous en avez croisé certains sur votre chemin ?
Moi, j'ai croisé un agent de mannequin. En fait, la première fois, on m'a remarqué, on m'a emmené dans une agence, et j'ai entrevu quelque chose qui ne m'a pas plu, de ce genre-là. Mais comme moi, j'étais assez armée, puisque je venais de Paris déjà, j'avais été armée, peut-être parce que c'était ma ville et que j'avais ma famille derrière, j'ai tout de suite dit si c'est ça, si ce genre de relation un peu, on t'invite à des soirées, les directeurs d'agence t'invitent, enfin, un truc qui me plaisait pas, je n'y vais pas, donc je me suis retirée tout de suite j'ai recommencé ma petite fac de droit.
Pour appeler un chat un chat, il y avait un côté un peu escort girl, c'est-à-dire que certaines personnes passaient par des agences de mannequins pour avoir des invités à des tables, aller en boîte de nuit
Oui, je sais pas, j'ai entrevu des trucs, c'est pas très... Oui, c'était pas ça, moi, que on m'avait invité à une soirée, un directeur d'agence une fois, et puis je me suis retrouvée, je pensais qu'il y avait du monde, et puis je suis arrivée, il y avait trois hommes qui étaient là, qui me regardaient un peu bizarrement, je suis repartie direct. Ou ça me plaît pas. Donc je suis repartie dans ma... C'est juste ça, moi. J'ai vécu juste comme ça, avec rien de plus grave. Mais ça m'a pas plu. Et donc après, je suis revenue à la fac. Et puis l'été, une autre personne m'a... Et j'ai dit, moi ça m'intéresse pas. Elle dit, non, mais je vais te mettre dans une agence tenue par deux femmes. Donc très calme, tout va bien. Et donc après, je suis partie. Et donc après... Vraiment, je n'ai jamais eu de problème avec les photographes.
Ouais, enfin, pardon, je crois savoir que c'est une femme française qui ramenait des jeunes filles mineures à des prédateurs américains, si je me souviens bien de l'affaire en question.
Vous parlez de...
Oui, c'est-à-dire que
moi, j'ai pas croisé.
C'était sa femme. Il y avait sa femme déjà qui était déjà une femme. Ça veut pas.
Ah oui, c'est vrai.
Dire
ça, que...
Tu parles de Maxwell, la fille Maxwell. Elle n'est pas française ?
Non, je ne sais pas. Enfin, il y avait un agent français qui était au milieu de cette histoire.
Oui, il y avait un agent français.
Mais il y avait une femme qui était, entre guillemets, rabatteuse. Donc, le fait d'être une femme ne protège malheureusement pas des prédateurs. C'est ça qui est fou.
C'est plus rare, mais ça peut arriver, c'est vrai.
Exactement. En 92, vous écoutiez Ricky Lee Jones. Connu pour son Chuck Is In Love, là vous êtes sur le Pirates.
Ah, c'est un album de... C'est un génie cette femme. Ouais. Extraordinaire. J'adore.
Et 80... donc vous aimez tous les Michael Franks et tous ces styles de musique.
Quand même. Oui.
Et on vous retrouve en 92-93, Marine, à l'affiche des Nuits Fauves de Cyril Collard. Un film qui a marqué de nombreuses générations, un film très très fort. Quel souvenir vous gardez de ce tournage ?
Il y avait Laura Favalli qui était dans le film.
Ouais, du casting, de tous ceux qui vous ont accompagné sur ce film-là.
Bon, une belle rencontre avec avec Roman Boringer, ouais. et puis Cyril, qui était intense, qui était en fin de vie en fait, et qui le savait en tout cas, qui en parlait assez ouvertement, qui était très fort. Et moi, je rentrais à New York. C'est difficile parce que à New York, on était en plein vague SIDA qui venait d'arriver avant Paris, avant l'Europe. Mmh. On était dans un milieu qui était la mode où il y avait beaucoup, encore plus de SIDA, et j'ai vu beaucoup de monde partir. Des homosexuels, surtout, cette communauté-là était très touchée, avec centrithérapie à l'époque, donc c'était assez violent, et c'est ce qu'a vécu Cyril aussi. Hein. Donc, avec pas encore l'aide des médicaments qui permettaient de ne pas développer certaines formes.
Et comment se passe un tournage sur lequel le réalisateur dit à toute l'équipe « je vais mourir » ?
Non, il le disait pas, mais c'était... Non, il le disait pas. Mais d'ailleurs, ça, il était fort. Hein. Enfin, voilà,
il avait dit j'ai le sida.
Oui, vous le saviez, bien sûr. Hein. Bah, oui, puisque évidemment, il faisait d'ailleurs attention. Non, moi, je me suis retrouvée à faire une scène d'amour avec lui. C'était étrange, mais c'était quelqu'un. En fait, c'est drôle parce que j'étais en pleine rupture amoureuse avec mon amoureux dans un restaurant, dans le Marais. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Il était assis à côté avec Corinne Blou, qui était sa compagne, qui était prof de théâtre d'ailleurs. Et donc, 6 mois après, on m'appelle en me disant « Cyril veut vous voir ». Je dis « Mais il vous connaît ». J'ai dit « Ah bon ?» Il dit « Mais vous avez pleuré un soir, ça l'a frappé, il veut vous rencontrer ».
Des ruptures qui ont
et
du
c'est
bon.
Comme ça, et voilà, et c'est comme dit, ça que j'ai décroché le rôle.
Il y a tellement de castings où les directeurs de casting demandent aux comédiennes de rire.
Pleurer.
Ouais, c'est ça. Vous pleurez en 2 secondes et puis on verra si vous êtes prise ou pas pour le rôle. Voilà. En 2005, vous êtes sur scène et vous écoutiez... Je vais m'abonner à la playlist Spotify de Marine Delpin. Ouais. Benny King, génial.
Moi, sur le manège, la pièce de mon mari, on avait la version de La Femme d'Ardisson. Cette version-là, dans la playlist de... Comment elle s'appelle ? Celle qui...
Non.
Béatrice Ardisson. Ouais. Ouais, on avait une autre version, c'était génial.
2005, on vous retrouve sur scène dans la pièce Le Manège.
Donc de son mari.
De Florian Zeller. Quelques années plus tard aussi, The Girl on the Sofa, aussi de Florian Zeller.
C'est qui est ce Florian Zeller
Non, mais voilà, bah après c'est très intime, donc je ne vais pas m'aventurer.
Non,
c'est une collaboration.
Elle a dit, je joue la pièce de mon mari. Donc,
oui, oui. Non, mais oui, c'est une collaboration, c'est une collaboration fructueuse et j'imagine joyeuse, mais peut-être aussi complexe d'être sous les mots de son mari.
Ah oui, parce que les mots de Florian ne sont pas simples. Voilà. Oui. Oh non, tous les acteurs se plaignent, ça a l'air simple, mais c'est pas simple du tout l'écriture de Florian Zeller. C'est beaucoup de répétitions, de contre-rythme. Mais non, c'est merveilleux de travailler avec lui. Il est très exigeant. Donc voilà, on grandit quand on travaille avec lui, c'est bien.
Ah oui, non, puis il écrit bien, c'est moins qu'on puisse dire. On a eu l'occasion déjà de le lui dire maintes et maintes fois à ce micro. Mayol Kerr nous a rejoint. Bonjour Mayol, merci.
Bonjour.
D'être ici. Vous êtes fondateur et dirigeant de Jour de Galop, un quotidien internet consacré aux courses et à l'élevage de galop. On disait tout à l'heure, et moi j'avais découvert les tensions et le milieu difficile et dur des courses hippiques, c'est vraiment le cas ou c'est la fiction qui exagère ?
Disons que c'est un monde de haute compétition. Voilà, donc il y a beaucoup de rivalités. Je pense que les rivalités entre jockeys, ce que vous décriviez tout à l'heure, moi je le reconnais tout à fait hein, dans votre propos. Après, sur le rôle de l'entraîneur qui effectivement choisit les jockeys, bon, vous êtes un petit peu injuste avec les entraîneurs, parce que les entraîneurs, c'est comme un entraîneur de foot. Ils décident que certains joueurs seront sur la pelouse pour ce grand match et d'autres n'y seront pas.
On est d'accord. Certains ne jouent pas, mais pardon, Messi au PSG, s'il reste assis sur son banc de touche, il va continuer de toucher les millions, qu'il touche. Or, là, ce que je comprends, c'est que le jockey qui ne court pas n'a pas la prime, n'a pas la course et n'a pas l'argent.
Oui, les gains des jockeys sont indexés effectivement sur ce que leurs chevaux gagnent en course, hein, puisqu'un jockey, en moyenne, gagne 7% de la location, même s'il peut aussi, quand c'est un grand jockey, avoir des contrat qu'on appelle de première monte, et donc c'est un contrat qui leur assure avec une grande écurie un contrat à l'année. Voilà. Et ce contrat à l'année leur permet d'être payé, même dans les périodes où par exemple ils sont accidentés, où ils ne peuvent pas monter.
On parle souvent du dopage des chevaux, on évoque en tout cas ce genre de choses. Il y a aussi un dopage pour les jockeys, ou en tout cas un traitement, des traitements, des produits qu'ils prennent pour
qu'est-ce que vous conseilleriez
un petit cocktail.
Daniel, vous voulez savoir pour maigrir, pour perdre 3 kilos en une journée, qu'est-ce que...
Des diurétiques comme dans la liste.
Alors, disons que bon, le gros problème des jockeys, c'est que, comme vous le savez, l'être humain a plutôt grandi au fil du temps et sa croissance s'est accélérée ces dernières années puisque globalement l'être humain a pris 10 cm en un siècle, mais il a pris 5 cm au cours des 30 dernières années. Donc ça s'est plutôt accéléré.
Donc vous trouvez moins de jockeys, enfin on trouve moins de jockeys de petite taille,
beaucoup
de petit poids,
c'est ça ? Et donc pour le dire différemment, les jockeys sont de plus en plus grands. Et aujourd'hui,
oui, mais enfin, si tous les jockeys sont plus grands, c'est pas grave, ils restent tous à égalité.
Si, c'est grave parce que ils doivent tous peser environ 50 kilos. Donc à l'époque où ils faisaient 1m60.
Vous avez qu'à changer la règle en disant ils pèsent tous 55 ou tous 60.
Non, la règle change. Précisément, voilà. Il y a une coordination parce que c'est au niveau international que c'est décidé. Il y a une coordination qui fait ce qu'on appelle un relèvement du poids minimum et qui permet de tenir compte de l'augmentation de la taille. Mais malgré tout, ça reste, comme dans le mannequinat, d'ailleurs quelque chose de très très drastique parce que quand vous avez un indice de masse corporelle globalement autour de 17 et fraction.
Ah non, mais je regrette. Vous êtes dans la maigreur. Pardon, je regrette, mais autant je peux comprendre que pour monter sur un cheval, il ne faut pas peser très très lourd, mais pour défiler sur un podium, je ne vois pas en quoi il faut être maigre. Enfin, je veux dire, c'est un diktat.
Ah oui, c'est pas lui.
Non, mais il faisait un parallèle en disant ben voilà, il faut perdre de la masse grasse. Bah,
non, je faisais juste le.
C'est ce qui se passe au milieu de la mode, il n'y est pour rien.
Oui, voilà, je faisais le parallèle.
Non, je sais bien qu'il est pour rien, mais c'était pas dit comme ça.
Non, mais je faisais simplement le parallèle des IMC.
Ça suffit, monsieur, est-ce que vous avez dit ça monsieur.
Attention, ouais.
Non. Après, la différence.
En tout cas, votre dernière collection est magnifique. Je vous
félicite. Merci. Mais vous savez qu'on est très proche de la mode avec l'univers des Kazakhs, soigneuses, ouais, avec les jolies couleurs. Je sais pas si vous avez été sensible à ça, mais c'est quelque chose d'assez chouette. Et donc, voilà, le contrôle du poids, c'est toute la question, le contrôle du poids. Donc, vous pouvez tricher. Vous pouvez prendre de la cocaïne, vous pouvez prendre des produits divers et variés.
C'est pas autorisé.
C'est de plus en plus rare. Il y a une vingtaine d'années, c'était un peu plus fréquent. Maintenant, c'est très contrôlé parce que les jockeys sont contrôlés après chaque course. Et donc, ils ont la chance que la médecine de la nutrition ait beaucoup progressé. Et aujourd'hui, ils sont tous accompagnés avec des prises de sang très régulières pour savoir quels sont les aliments qui peuvent le mieux absorber. Et ces aliments, la liste des aliments d'ailleurs évolue au fil des semaines. Et de plus en plus, c'est ça. Mais malgré tout, pour répondre à votre question initiale, si vous voulez être mince, le plus simple, c'est de pas manger. Voilà, pour la faire.
Ah bah
court.
Bravo. Alors c'est tout ça pour ça.
C'est-à-dire que moi on mange.
Si t'as soif, tu bois.
Moi on mange, moi on grossit.
Je sais pas, je vois.
Écoute, note Daniel, note, moins on mange, moins on grossit. Ouais,
donc quand... si on veut être mince, on mange pas, mais si on veut être mince, on va vivre un peu moins longtemps.
Non, mais pour
aussi.
Le dire un peu différemment, j'ai vu en entrant dans le studio au pied de Nagui un sac Detox Delight par exemple, si vous buvez des jus et que les jus sont bien composés, vous restez plus mince que si vous mangez de la viande rouge à tous les repas. Voilà. Donc globalement, la journée d'un jockey, elle se compose d'un seul repas par jour.
C'est con, c'est déjà payé.
Ouais.
Mais j'en ai pris
bien.
Aussi, Nagui. Hein, c'est très bon. Hein, quand on veut faire une petite sèche, c'est parfait.
Ah, donc ils ont un seul repas par jour.
Voilà, le mieux, c'est un repas par jour le soir, et il faut une.
Et quoi comme croquette on donne.
Non, alors.
Mais du coup, en dehors de la course épique, ils sont pas hyper sportifs parce que du coup, le muscle pèse lourd quand on fait beaucoup de sport.
C'est vrai. Alors, leur enjeu sur le plan musculaire, c'est effectivement de, comme ils doivent pas trop s'alourdir, ils ne doivent prendre des muscles qu'aux endroits où ils en ont besoin. Ouais. C'est-à-dire principalement dans les cuisses. Ouais. Puisqu'en fait, leur position, les jockeys de galop, c'est une position qui est en suspension. Donc, dans les cuisses et dans les bras pour pouvoir pousser le cheval. Parce que, vous voyez, le différentiel, il est entre un homme qui pèse une cinquantaine de kilos et un cheval qui en pèse 500. Et qui fait des pointes à 70 km/h. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment que les cuisses soient solides. Faut pas que les pieds bougent dans les étriers. Surtout que les jockeys de galop, comme vous le savez peut-être, montent en fait sur un orteil. C'est-à-dire qu'ils ne chaussent pas les étriers. Ils ne chaussent l'étrier qu'avec un orteil.
Que sur le pouce, ouais.
Oui, que sur le pouce, que sur l'orteil. Et ça, c'est à 70 km/h avec des chevaux tout autour. Et alors, puisque dans votre série, on parlait de meurtre entre jockeys et de rivalité. Moi, ce que je voulais vous dire à ce sujet de la rivalité, c'est que le moment le plus dangereux de la rivalité, c'est pendant la course. Ouais. En fait, le vrai danger, il est là. C'est-à-dire que quand deux jockeys ne s'aiment pas, quand l'un veut prendre une place de l'autre, il y a un risque d'accident qui est fort. Et là, ça peut être très grave, parce qu'à 70 km/h, l'herbe, c'est du béton.
Merci, Mayol Guerre. Je rappelle, jour de galop, sponsorisé donc par des jus sur la course et l'élevage de galop. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Voici le héros du jour, Daniel.
Oui, alors attention, les amis, aujourd'hui, je n'ai pas hésité une seule seconde. Non, là, c'est clair, mon héros du jour, plutôt mon héroïne, ne souffre aucune discussion. Cette femme exceptionnelle, c'est Sœur Marie-Marguerite. Sœur Marie-Marguerite est une nonne âgée de 80 ans qui travaille dans une école de Los Angeles. Pour se distraire, elle aime bien, la coquine, faire un petit tour à Las Vegas pour jouer au casino. Le problème, c'est que pour jouer au jeu d'argent, il faut de...
L'argent.
Et une paye de nonne, même à LA, c'est pas... Foufou. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, Marie-Marguerite? Eh ben, elle a utilisé la carte bleue de l'école. Bah ouais, allez, on y va. Mais le problème, c'est que quand tu crois en Dieu, ça suffit pas pour faire des miracles, même à 80 ans. Elle perd. Elle a perdu 850 000 dollars. Bon bah, tribunal, et avant-hier, la justice des
ça
hommes...
Vu, en tout cas. Ouais.
La justice des hommes a tranché, bim, un an de prison pour sœur Marie-Marguerite. Alors, beaucoup diront, c'est mal ce qu'elle a fait, jouer au jeu c'est un péché, qu'elle brûle en enfer, saloperie de créature du diable. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là, Nagui. Non, je trouve que sœur Marie-Marguerite est un exemple à suivre pour notre sainte mère, l'Église.
Carrément ?
Ben oui, dans cette période tourmentée, où l'image de l'Église est quelque peu ternie par de sordides affaires, quoi de plus salutaire et encourageant qu'une vision des ecclésiastiques qui savent s'amuser, qui savent aller chercher le fun. Marie-Marguerite est un exemple éclatant de l'Église décomplexée, qui n'a pas besoin de courir, de faire courir l'enfant de cœur pour prendre du bon temps. Alors oui, c'est un budget, 850 000, c'est beaucoup. Comme dirait Mamie Leïla, ah ben ça se trouve pas sous le cerveau d'un cheval. Ben oui, elle a raison, mais croyez-moi, ça en vaut la peine, juste pour le côté positif mis en lumière. C'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui, à 11h58, j'en appelle solennellement. À qui ?
Au président de la République.
Non, au pape.
Direct.
Très sympa.
C'est ça la musique du pape.
Mon François, mon papounet. En ce moment, l'Église est en crise. Elle est en crise, mais ça peut s'arranger. Et pour que ça s'arrange, j'ai la solution. Embauchée auprès de vous au Vatican et comme DRH, sœur Marie-Marguerite de Los Angeles. Une enfant de Dieu de 80 ans, mais qui a su rester joyeuse. Elle initiera au jeu d'argent vos cardinaux, vos évêques, vos bedeaux et vos prêtres. Oui, c'est pas mal. Et pendant ce temps-là, peut-être que les enfants de cœur, les scouts, pourront souffler et arrêter de courir dans les couloirs pour échapper aux sprinters lubrique qui hante les lieux saints, la bave aux lèvres et la soutane à la main. Alors, ça peut coûter du blé, elle a quand même cramé 850 000 boules, sœur Marie-Marguerite, mais on ne sait jamais, au casino tout peut arriver, ça peut aussi rapporter gros.
Oui.
Allez, God save Marie-Marguerite.
Merci,
amen.
Daniel. Amène l'argent, surtout.
Amène le blé.
Tanguy Pastureau, vous allez parler de quoi?
Oui, alors calmez-vous, Nagui, calmez-vous, ça va bien se passer.
Non,
d'accord.
Mais
est-ce que je vous parle comme ça, moi?
Oh
non, parce que
là.
Je suis dans le respect
okay,
de l'autre.
On
mais
va parler
tout
de Darmanin, j'ai compris. On va parler de Darmanin.
D'accord.
Marine Delterme est notre invitée jusqu'à 12h30. Nous parlons du final d'Alice Nevers.
Bonjour.
Daniel Morin,
bonjour.
Et notre invité,
salut.
Marine Delterre.
Bravo. Voilà.
Nous parlons d'Alice Nevers qui s'en va.
Tire sa révérence.
Oui, c'est même pas clairement dit d'ailleurs dans la série. Elle se marie, mais il n'y a pas le côté je prends ma retraite, je laisse tomber mon métier, je m'arrête.
On ne sait jamais.
Non, elle continue sa vie, mais en Normandie.
On ne sait jamais.
Mais c'est un début, oui. Ouais, peut-être un début de quelque chose.
Ouais.
Non mais est-ce que ça a été évoqué est-ce qu'il a été évoqué ce qui peut arriver dans certaines séries quand des acteurs quittent la série ou que la série s'arrête, qu'il y ait un accident, qu'il y ait une mort, une vengeance, est-ce que tout ça a été évoqué?
Oui, on avait même finissait dans le drame et puis après on s'est dit à Claire et le producteur que c'était quand même un peu sombre et qu'on vivait des années pas faciles et qu'on allait sortir de tout ça par le haut et avec quelque chose de joyeux.
C'est Claire Alexandra Kiss, hein,
qui écrit, que j'adore.
Et qui est la directrice de collection,
oui,
c'est ça?
Oui, elle est géniale.
Et complice donc totalement avec vous.
On travaille bien, toutes les deux.
Lorsque l'on avance comme ça avec un personnage, et Morgane le disait tout à l'heure, j'imagine que dans la rue, des gens vous appellent Alice ou Alice Nevers, on est... Ça arrive d'abord ?
Non, pas trop, c'est bizarre. On
avec
connaît
le,
mon prénom.
Avec le masque.
Non, c'est... mais on sait qui je suis, Marine. C'est bizarre. J'ai jamais eu ce truc là de complètement être confondu.
D'être dans la fusion entre le personnage et le. Et tant mieux.
Bah tant mieux.
Est-ce que vous pensez que ça vous a privé de certains rôles, par contre, dans le métier ? Je parle plus du public. Je parle des producteurs ou des scénaristes.
Bah en tout cas, c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, j'ai jamais autant tourné et fait d'autres choses. Donc en tout cas, oui, voilà, j'ai beaucoup tourné là depuis l'arrêt d'Alice Nevers avec des projets qui m'importent, enfin en tout cas qui étaient forts comme Loin de chez moi avec Marc Lavoine ou Manipulation, la mini-série que j'ai fait pour France Télévisions. Donc c'est chouette.
On parlera d'ailleurs de tous ces nouveaux projets et de l'avenir, même si on est très concentré sur le final de cette série d'Alice Nevers sur TF1 demain soir avec Marine Delterme. Voici Tanguy Pastureau.
Tanguy.
Hier, avant l'émission, j'étais avec Daniel Morin en train de boire un café devant la maison de la radio. Daniel me disait « J'aimerais tellement être toi ». Je lui disais « Je comprends ». Quand Nagui, vous êtes arrivé, ado de stagiaire, afin de respecter vos principes en matière de protection de l'environnement.
Exactement.
Et en même temps, quasiment en même temps, Léa Salamé est sortie de la radio. Je me suis dit « Nagui, Léa Salamé, il est 11h du matin et je suis en soirée VIP. Waouh, je guettais l'arrivée de Lady Gaga, Thierry Beccaro, Pifou. La folie !» C'est alors que Léa Salamé nous dit un truc comme la vie de Marum sur la tête de la cinquième sa sœur. Cette campagne électorale est d'une violence, j'en peux plus. Pourtant, c'est une femme puissante. Elle est à fond. Si c'est elle qu'on avait envoyé tchatcher avec Poutine à la place de Macron, elle faisait bou, Poupou se mettait à pleurer et il partait avec ses soldats à biceps sur le shooting du calendrier Les Rois du Treillis. Et là, Léa sort son smartphone et nous montre la vidéo de Darmanin face à Apolline de Malherbe sur BFM TV. Absolument. Vidéo qui a fait le buzz, comme disent les abeilles d'Arnaud Montebourg, Arnaud Montebourg qui vient de rentrer à la ruche. Donc j'explique pour les quatre mots erectus qui lisent encore des bouquins au lieu de surfer sur morandini.com comme tout le monde. Hier, Apolline de Malherbe reçoit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mmh. Un petit bonhomme entouré de flics. Il a la vie du manager du Village People en 79. D'entrée de jeu, Madame de Malherbe lui sort ses mauvais chiffres en matière de sécurité. On dirait tellement ma mère quand en sixième je revenais avec un bulletin de notes pourri que j'ai cru que Darmanin allait quitter le plateau et filer dans sa chambre. Et là, Darmanin se décompose juste pour ça. C'est-à-dire que si un jour Élise Lucet le poursuit dans la rue, je pense qu'il creusera dans la terre pour s'y cacher en disant à une famille de taupes, je réquisitionne votre logement. Il tente une vanne, il dit, j'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est sur BFM. Vanne, bon, qui tombe à plat. S'il l'avait tenté en 2013 dans On ne demande qu'à en rire, Catherine Barma l'aurait plaqué au sol, tandis que Jean Benguigui lui aurait sauté à pieds joints sur la face en hurlant j'ai mal à mon humour. Apolline de Malherbe continue, elle détaille, homicide en hausse, coups et blessures volontaires en forte hausse, explosion des violences sexuelles, elle a pris les chiffres du ministère. Moi j'ai entendu ça, mais je me suis dit je ne sors plus. J'ai embauché Nicolas Canteloup qui me suit partout pour qu'en cas d'attaque, il imite Ségolène Royal. Les agresseurs furaient en criant non, pas Ségolène Royal. Puis, mais c'est quoi cette imitation? Donc Darmanin fulmine. Parce que les politiques vivent en 2022, mais dans leur tête, il faudrait qu'on soit toujours comme au temps de l'ORTF, avec des journalistes à collier de barbe, qui leur disent, si je puis me permettre, monsieur, avec le respect que je vous dois, vous êtes tellement beau et grand que j'en ai des sueurs. Et là, Darmanin, alors qu'Apolline de Malherbe lui pose quoi, des questions, en fait, quoi, se met à dire, calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Elle ne se démonte pas, elle répond, oh, comment vous me parlez? Enfin là, je me suis dit, il va se passer un truc, les casques bleus de l'ONU vont se mettre entre les deux, avec Bernard-Henri Lévy en smoking derrière un sac de sable qui crie, vous inquiétez pas, je gère. Puis je me suis dit, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est typiquement le truc qu'on dit à une femme, parce qu'on part du principe que la femme qui se montre offensive est systématiquement enragée. Jean-Jacques Bourdin qui fait la même chose, les mecs sont quasiment à lui dire, yes, papa, tu m'as bien taclé, c'est pas des bourses que t'as, c'est tellement des boules de démolition que si tu débarques chez Bouygues, ils vont t'envoyer sur les chantiers. Mais une femme, non, une femme, elle doit se calmer. Il n'y a pas ce respect réciproque des mâles alpha qui se reniflent. Là, Darmanin, il s'est fait tambouriner comme le chat de cette ordure de Kurt Zuma. Il aurait pu se dire, c'est ça la politique, la confrontation, la joute verbale. Parce que si c'était pour être confort, il fallait bosser chez Disney Plus avec Pampan le Lapinou. Mais non, de Malherbe, c'est une fille, elle doit être gentille. Darmanin, ce qu'il cherche dans la vie, c'est pas une journaliste, c'est une geisha. Si BFM avait délocalisé à Tokyo, ça aurait pu se produire, mais ils sont à Paris. Il y a juste des rats morts, des pigeons morts, des journalistes vivants, et aussi Jean-Pierre Elkabbach sur CNews. Bon, là, ça dépend des dimanches, concrètement. Et ça a toujours été comme ça. Souvenez-vous du débat Sarkozy-Royal en 2007. Lui avait dû fumer 17 juin. Pourtant, il n'était pas encore avec Carla, donc c'est Hortefeux qui avait dû rouler en loge. Il était tout calme. Au premier coup de sang de Ségolène, il lui avait dit « Calmez-vous, mon enfant !» Et c'était plié. Hein, parce que tout le monde s'était dit « Elle est folle !» C'est une technique, en fait, vieille comme le monde. Parce qu'on est conditionné ainsi. Si c'est une femme qui faisait taratata et se mettait hurler « Faites du bruit !» Il y aurait Bernard Lavillier qui dirait « Toi, tu chuchotes, sinon je t'envoie à Saint-Étienne !» Bref, ensuite Darmanin a expliqué que, ok, il y avait une forte hausse des violences aux personnes, mais une diminution des atteintes aux biens. Ce qui est le deuxième argument le plus nul de l'histoire des arguments, après celui d'Hitler quand il avait dit « Oui, je suis d'un naturel colérique. » Bon, hein, parce qu'il vaut mieux 1000 voitures volées qu'un seul être humain violenté, en fait. Objets et humains ne sont pas à mettre sur le même plan, essayer de foutre papier à la poubelle. Eh ben, il va râler, ce vieux con. Hein. Donc, Gérald Darmanin, en conclusion, a déclaré « Quand on dit la vérité, on ne la chante pas à moitié, comme disait Jean Ferrat. » Voilà les macronistes qui citent Jean Ferrat. Wow. Hein, la prochaine étape, c'est quoi? Pécresse qui cite Louise Michel. Elle a raison, Léa Salamé. Elle va être longue, cette campagne.
Merci.
Et Candy, on se retrouve le 25 février à Sanary-sur-Mer.
Oui, qui a presque tout raconté.
Oui. pas tout, t'es pas allé jusqu'au bout de la conversation qu'on a eue, mais presque tout.
C'est vrai.
Presque tout. Mais tout était vrai, en tout cas. On parle avec Marine Delterme d'Alice Nevers. On va parler évidemment de ses projets dans quelques instants. Alice Nevers, c'est demain à 21h10 sur TF1, les deux épisodes, avec ce casting qui réunit évidemment Jean-Michel Tinévili, qui est votre partenaire dans cette série, mais aussi Laurent Gamelon et Garance Thénault. Je reviens sur elle parce que j'avais le sentiment, vous savez, ça fait partie, non mais c'est vrai, de ces actrices qu'on a déjà vues, et on se demande mais où, à quel moment, et voilà, je trouvais que ça jouait bien, j'insiste, mais j'aime
merci
bien.
Merci pour elle.
Mais non, écoutez, en moi c'est là pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la culture, Leïla?
On va parler de la joueuse de tennis, Alizée Cornet. Elle va changer de métier pour devenir quoi?
Coach.
Une glace.
C'est dans le cadre de... Une glace,
une glace cornée, une glace.
C'est le cadre
non,
dans...
non,
c'est dans
non,
le...
non.
Moi j'adore l'humour.
Ouais,
moi j'adore.
C'est vrai. C'est dans le cadre de l'interoculture, donc vraisemblablement.
Réalisatrice.
Non.
Chanteuse.
Mais vraiment définitivement.
Auteur.
Elle arrête le tennis.
Elle écrit.
Absolument. Romancière. Elle prépare son après carrière. Et elle estime que c'est dans l'écriture que cela va se jouer. Cette joueuse classée 61e mondiale va sortir son premier roman au mois de mai, et elle déclare qu'elle ne pense pas que ça sera son dernier. Ça sera.
Elle a confiance.
Bah, ouais. Mais elle est, c'est une compétitrice vraisemblablement.
Ah,
bah,
c'est
quand même,
ça. Hein. On verra.
Oui.
Les sportifs ont un mental particulier, c'est-à-dire que là, ils se lancent sur 20 romans directs.
Ouais, ça se trouve.
Et 10, ça va cartonner. Ouais, c'est ça, en fait.
C'est ça. Et cet ouvrage, ça sera aux éditions Flammarion, pardon.
Le sentiment d'être à sa place ou pas, de savoir écrire ou pas, c'est chaud quand même d'écrire un roman.
Bah, sans doute, mais si elle se lance, c'est que vraisemblablement, elle en a. Bah, il y a plein de gens qui le font et qui le font mal, hein, après, voilà. Ça n'aura aucun rapport avec le tennis. Elle ne peut pas parler du thème pour l'instant parce que je pense qu'il y a un coup avec l'éditrice qui fait qu'on prépare quand même la sortie de ce bouquin. Elle avait déjà écrit une autobiographie sans compromis où elle parlait de ses années tennis. Elle a 32 ans, hein, cette jeune femme. Bon, voilà, on ne sait pas. On attendra de voir ce que ça donne.
On va juger en lisant.
Absolument, absolument. Tout à l'heure, Marine en parlait des mots de Florian Zeller dans ses pièces de théâtre, dans ses mises en scène. Et vous, les mots, est-ce que les envies d'écriture,
le rapport à l'écriture, oui.
Ouais.
Alors c'est pas du tout ma partie dans le couple, c'est pas du tout mon point fort, mais en tout cas je veux réaliser, ça c'est un de mes rêves.
D'accord.
Donc, je vais passer par des mots des autres co-travailler, mais j'ai travaillé sur Alice Nevers, c'est vrai. Quand même,
sur
les scénarios, mais pas les mots dans des romans, dans des pièces. Non, ça, c'est impossible.
C'est vrai.
C'est trop dur. C'est ce qu'il y a de plus dur au monde d'écrire une pièce de théâtre.
Mais alors, justement, comment on sait si on en est capable ou pas?
D'écrire? Moi, je sais que je suis capable de travailler sur un scénario, en tout cas de l'améliorer. Et, vous me demandez si... Je sais pas.
Vous dites c'est dur d'écrire une pièce de théâtre. Comment savoir sans le faire?
Ah bah les gens essayent, hein, puis après ils arrivent pas à monter les pièces où personne reste dans la salle. Parce que le problème du théâtre, c'est que les gens,
qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas doué pour ça?
Ah bah parce que c'est très difficile. Parce que moi je suis une visuelle depuis le départ. Moi je fais de la sculpture, je dessine, je passe par le regard. Je suis pas du tout
la photo aussi.
Pas écrire. Non, pas trop. Non.
Donc alors vous voulez réaliser, mais votre rapport à l'image se fait plus en 3D, j'ai envie de dire, avec une sculpture ou avec une peinture, qu'avec une photo ou du film.
Non, le film, bien sûr.
Ah,
si,
le film,
si,
oui, bah,
parce que d'accord. Le film, c'est, enfin, je sais aussi bien que moi, c'est la lumière, le cadre, le cadre et les focales, enfin tout ce qu'il y a à décider. Mais en tout cas, voilà, la mise en scène me passionne. Et surtout, le fait d'avoir vu autant de metteurs en scène passer sur le même exercice imposé pendant 20 ans, d'avoir vu tous ces metteurs en scène. Alors des fois, je râle parce que j'avais fait un film avec Pascal Elbé, le mec de la tombe d'à côté. Je disais, mais pourquoi elle fait ça? Elle met un travelling. Je dis, bah, fais-le. Enfin, c'est pour que je ne commande pas, je ne m'énerve pas, mais il y a des fois des choses avec le métier, avec ce que j'aurais fait moi. Voilà, donc je sais que je suis mûre pour.
Donc il est temps de passer à l'action.
À ma manière.
Ouais, surtout que Pascal Elbé ne s'énerve jamais.
Jamais.
En plus.
Il est extraordinaire.
Ah oui, il est formidable. Et on l'embrasse aussi.
Ah oui, on l'embrasse.
Au passage, quand vous parlez de la mise en scène, quand vous parlez de réaliser, vous avez évoqué la technique, en effet, la lumière, le cadre, et vous avez rajouté la mise en scène. On arrive forcément à la direction d'actrices et d'acteurs. C'est-à-dire justement leur donner confiance, leur donner des ordres, les placer, les diriger. Ça, c'est encore un autre exercice.
C'est très compliqué. Il y a très peu de bons directeurs d'acteurs, je dois dire, chez les metteurs en scène.
Ça, vous l'avez constaté de l'autre côté.
Bien sûr, parce qu'il faut raconter une histoire, c'est pas facile. C'est ce que peu de metteurs en scène font, mais encore moins sur l'exercice télévisuel, qui est un exercice très... On a peu de temps pour tourner dans une journée, donc on peut pas non plus... il faut aller à l'essentiel très vite.
Mais j'ai l'impression que le jugement de bon ou de mauvais metteur en scène ou directeur d'acteur n'est pas le même en fonction de l'acteur ou de l'actrice. C'est-à-dire, certaines personnes sûrement aiment être dirigées, d'autres aiment être libres et suggérées.
Mm-hmm. Donc, alors moi sur Alice Nevers, j'ai beaucoup de liberté.
Un mauvais réalisateur pour vous peut être un bon pour un autre, non ?
Bien sûr, non, mais enfin un bon acteur au départ, il a besoin d'être, on a toujours besoin d'être dirigé quoi, au minima, et surtout de travailler avec un partenaire. C'est-à-dire que les acteurs qui jouent tout seuls n'ont pas compris qu'ils seront très mauvais. C'est comme au ping-pong, quoi. Il faut aussi être souple, savoir réagir. Mais ça, c'est l'intérêt d'avoir du métier ou en tout cas de travailler depuis longtemps, fait qu'on est plus instinctif.
Autre question, le producteur de Bohemian Rhapsody, le biopic de Freddie Mercury, oui, a décidé de s'attaquer à une nouvelle star. Mais qui donc, pour raconter
Mick
sa
Jagger
vie sur grand écran, non ?
Pourtant, il y a de quoi raconter sur Mick Jagger.
Gabriel Attal.
Il y aurait Marie Delterre.
Gabriel Attal, non, c'est passé à ça.
Star de cinéma, musique.
Musique.
Michael Jackson.
Absolument.
Jim Morrison. Tiens.
Michael Jackson.
Bon courage.
Ouais.
On fait très bien, Nagui.
L'idée, ça serait... Alors, on n'a pas la date de sortie du film, on n'a pas de date de tournage.
Ça dépend ce qu'il va raconter, surtout.
C'est ça. Choisir l'interprète aussi, ça ne va pas être simple.
Il y en a plein. Hein.
Mais en fait, tous les
jours. J'ai des spectacles à Londres extraordinaires avec les sosies, danse et chant. Après, il faut savoir jouer, bien
voilà,
sûr.
Ouais.
Mais... Non, mais ça dépend si le propos est musical ou polémique sur la vie privée.
L'idée, c'est de faire revivre les grandes performances de Michael Jackson en donnant un aperçu sur sa création artistique et aussi une partie de sa vie personnelle, sans quoi il estime que ça ne serait pas une véritable représentation de Michael. Est-ce qu'il y aurait un personnage féminin ou pas féminin, un personnage, une personne qui a véritablement existé, vivante ou pas, dont le destin, l'itinéraire de vie vous intéresse au point de vous renseigner, de lire dessus, qui sait, de réaliser un biopic, mais en tout cas déjà pour l'intérêt que vous portez.
Bah moi, j'ai un pied dans le monde de l'art, je suis toujours intéressée par les artistes, donc j'ai pu faire Berthe Morisot, j'en étais très contente. Yannick Saint-Phalle, que je trouve intéressante.
Ouais.
Alors on est vraiment sur les sujets en plus thématiques actuelles, c'est-à-dire l'inceste, son père qui elle a connu l'inceste, toute son œuvre autour de ça, son combat. Donc voilà, c'est plutôt les femmes artistes moi qui m'intéressent. Ouais. Mais c'est pas évident de faire des biopics de femmes artistes. C'est ce que j'avais fait avec Berthe Morisot, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que dans l'histoire de l'art, les deux femmes qui surgissent après des siècles de néant sont Camille Claudel et Berthe Morisot, qui se retrouvent toutes les deux amoureuses de deux monstres, entre guillemets, qui sont Rodin et Manet. Mm-hmm. Et donc là, ça devient plus intéressant et facile de raconter une histoire parce qu'on est en réaction avec un personnage masculin et des femmes qui essaient de trouver leur place. Après, sur Nikita Saint-Phalle, il faut trouver l'angle. Voilà. Ouais. Mais c'est toujours intéressant.
Pourquoi vous mettez monstre entre guillemets?
Monstre, non, je parlais de Rodin en fait. C'est vrai, non, monstre, pas dans le, c'est pas le bon terme, dans le sens un immense talent, quoi. Puis des gens, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Rodin.
Extrêmement violent aussi vis-à-vis de leur muse ou de leur.
Ouais, qui sont assez contraignants quand même. Et puis Manet aussi, elle a eu du mal, Berthe Morisot a existé face à Manet quand même. Et d'ailleurs, elle s'est mariée avec son frère au final. En fait, elles essayent de s'épanouir, mais elles vont avec des hommes qui font le même métier qu'elles, qui sont bien en amont et au devant d'elles. Donc qui à la fois leur donne des conseils et en même temps les enferme un peu, c'est pas évident. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est comment on sort de ce carcan-là, dans lequel elles se mettent.
Mm-hmm.
Voilà.
Votre œil artistique, justement, sur sur la peinture, sur la sculpture, sur la lumière dont vous parlez, fait que forcément, vous n'êtes pas une actrice comme les autres sur un plateau. Dès que vous arrivez, vous regardez tout de suite si tout est cohérent, si techniquement ça vous convient ?
Non, moi ce que je veux, c'est que quelque chose se passe. Voilà. C'est mon obsession. Depuis mes années cinéma, j'ai commencé avec Cyril Collard, on improvisait. J'ai eu la chance de rencontrer Piala aussi, de travailler avec Godard. Des gens qui vous donnent... Emmanuel Poirier, avec qui j'ai fait Tekiro, qui est des hommes qui travaillent sur l'improvisation, sur le réel. Et donc j'ai amené ça peut-être dans mon carcan télévisuel. C'est de ne jamais accepter un dialogue qui n'est pas bien écrit, qui ronronne ou qui n'est pas, qui est empoulé. Donc ça m'est arrivé souvent de dire à en fait je suis la première spectatrice de ma série, donc souvent il m'est arrivé de dire là je m'ennuie, donc il y a un problème, donc je vais voir le metteur en scène et qu'est-ce qu'on fait. Il nous est déjà arrivé de mettre toute une scène à la poubelle, les masters, les gros plans, et de dire l'acteur on va improviser. Donc moi je suis un peu la mouche du coche et un peu l'emmerdeuse, mais j'arrive toujours sur le plateau pour faire que les choses avancent et qu'il se passe quelque chose.
D'accord, mais hier, par exemple, Rojdi Zem nous expliquait que dans le film Enquête sur un scandale d'État, tout était, et où on a l'impression que tout est improvisé, tout est extrêmement naturel, c'est même filmé façon documentaire, tout est écrit à la ligne près.
Mais si c'est très bien écrit, c'est parfait. D'accord. D'ailleurs, les bons dialogues, on les apprend très vite, hein, c'est facile. Et puis quand on n'arrive pas à apprendre un dialogue, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Or, en télé, parfois, il n'y a pas l'espace et le temps de peaufiner. Quoi. Donc c'est un peu le boulot des acteurs sur ça. Moi, sur une série, d'arriver et de faire que ça soit fluide. Et le plus beau compliment qu'on me fait parfois, c'est on me dit on a l'impression que vous ne jouez pas. Ça, c'est pour moi un très beau compliment, dans le cadre de cette série en tout cas.
Être le plus naturel possible. Alice Nevers, la dernière ligne droite, entre guillemets, le final de la série, c'est demain avec ces deux épisodes nommés Cavalcade dans le milieu hippique. Il y a toujours l'intrigue, évidemment, il y a toujours l'enquête, il y a toujours le suspense. Et rajoutons à ça la part émotionnelle et les retrouvailles avec le casting et le clin d'œil fait aux 20 ans d'Alice Nevers dans la série. Parlons de l'avenir, donc, parce que Alice Nevers s'arrête, Marine Delterme continue sa carrière, et vous avez dit, je n'ai jamais autant tourné depuis que j'ai arrêté, c'est-à-dire depuis que le métier sait qu'Alice Nevers s'arrête, et depuis surtout que vous avez du temps à consacrer. Donc à quoi? Manipulation, vous avez dit?
J'ai fait Manipulation, oui, qui a très bien marché, ouais. Avec Marc Ruchman, que j'aime beaucoup, sur une femme en prise avec un pervers narcissique. Et puis Loin de chez moi, de Frédéric Forestier avec Marc Lavoine, voilà, qui était très bien aussi, une sorte de thriller, des rôles très différents. Des femmes plus fragiles. Une femme schizophrène en l'occurrence, et puis une autre femme voilà, qui est plus ambivalente. Mais voilà, j'ai beaucoup tourné. Après, j'ai fait le final, parce qu'on a fini le final il y a à peine 2 mois. Hein. On est diffusé quasi dans la foulée. Donc je voulais me poser un peu.
Et lorsque l'on entend justement vous parler de Manipulation et vous citez France Télévisions, Alice Nevers, on cite TF1, est-ce qu'il y a vraiment un cloisonnement, un empêchement fait à certains acteurs ou certaines actrices en disant bah non, tu es estampillé avec telle chaîne, t'as le logo de la chaîne sur le front, tu ne peux pas aller travailler pour d'autres.
Non, ça n'existe plus. Enfin, moi d'abord, je ne l'ai jamais ressenti, mais encore moins maintenant. Enfin, les acteurs se baladent d'une chaîne à l'autre. Et puis, moi, les deux reines de la fiction, il y a Anne Viaud et Anne Holmes. Anne Viaud à TF1, Anne Holmes à France Télévisions. Elles sont toutes les deux merveilleuses et j'ai des très bons rapports avec elles, quoi, de création. Donc moi, je ne me sens pas du tout estampillé quoi que ce soit. Et j'ai fait Berthe Morisot, pardon, avec Anne Holmes aussi pour France Télévisions. Donc,
et en étant bilingue comme vous l'êtes, les plateformes, les Netflix, les Amazon Prime, le choix de faire quelque chose à l'international et pas forcément en France,
bah oui, vous tente ? Pourquoi pas, oui, bien sûr, c'est intéressant. De toute façon, un acteur, il est fait là pour être surpris et c'est un des bons côtés du métier. Il y en a plein de mauvais, mais en tout cas, c'est de dire, voilà, tout peut arriver à tout moment, on peut vous proposer plein de choses, vous pouvez partir tourner 6 mois en Australie, enfin... C'est ça qui est génial.
On s'interdit rien quand on est actrice ou acteur, c'est ça?
Bah non, normalement, si on peut.
Des excuses à présenter, Daniel Morin?
Oh oui, déjà désolé pour notre invité.
Oh oui,
Marine Delterme. J'ai eu la direction de TF1 et ils m'ont annoncé que pour succéder à la série Le juge est une femme, ils ont recruté François Berléand. Ça s'appellera L'acteur épourave, l'histoire d'un acteur qui... Bah, qui est pour Ave. Alors, selon Nagui, c'est du taillé sur mesure. Voilà. Bah, on a hâte.
Pour Berléand, oui.
C'est un grand acteur.
Ah bah oui,
Berléand,
bah oui, très très grand acteur.
Ouais, enfin, bon, on en fait trop, je trouve.
Bah, du coup, désolé pour François Berléand maintenant. Finalement, TF1 fait marche arrière. Il vient de nous écouter. Et plutôt, a décidé de lancer une série médicale qui, je peux l'annoncer en exclu, s'appellera Le gynéco est un escroc. Ce sera avec Michel Simès. Là aussi, on a hâte. Et là encore, Nagui trouve que c'est très proche de la réalité.
C'est un doc.
Voilà, ouais. Désolé enfin pour Madame Guy.
Qu'est-ce
qu'il y a ? Ce matin, votre mari, madame, visiblement fatiguée, a oublié de mettre un filtre. Il a passé l'émission à draguer notre invité. Alors,
je fais des compliments.
Deuxième problème, l'invité n'avait pas l'air plus choqué que ça. Troisième problème, elle avait l'air même troublée, l'invité. Quatrième problème, tout ce petit monde se connaît très très bien. Ils ont même l'air amis. Mais quel monde pourri. Heureusement qu'il y a Tanguy Pastureau qui, malgré les apparences, est quelqu'un de propre.
Ça tombe bien, parce que ma femme sera demain dans la bande originale.
Ah bah je lui dirai.
Voilà, comme ça.
Je montrerai les images, dis donc.
La boucle est bouclée.
Mais tu ne seras pas là.
Mais je ne serai pas là, ah évidemment.
Bon, sache.
C'est toi. Non, pas du tout. C'est Leïla qui présentera l'émission avec Mélanie
Page
et Arthur Junot pour parler de Black Comedy. Justement, le théâtre. Quelle tentation. Eh oui, vous me voyez venir, forcément.
Ah bah oui, là j'ai pas pu pendant plein... C'était dur de faire les deux, ça c'était pas possible.
C'est impossible.
Non.
Tourner en Normandie, être au théâtre tous les soirs à Paris, c'est pas possible.
Ouais, puis même, on peut pas tourner la journée, aller au théâtre le soir, c'est trop dur. Mais oui, ça avec plaisir. Ah, ça, c'est génial.
Et quel genre de répertoire? Est-ce que ça serait de la comédie, du drame, du classique, une création?
Comédie musicale?
Ah, j'adore les comédies musicales.
Vous aimez chanter? Vous aimez beaucoup chanter?
J'adore chanter, j'adore les comédies musicales. Je trouve qu'il y a un truc à faire.
Est-ce que vous pourriez demander à Florian Zeller de vous écrire un rôle?
Non, on ne demande pas à Florian Zeller de s'écrire un rôle.
Quand on
il
est
fait
sa femme.
Veut.
Non, mais.
Ah non, non.
Non,
ça marche pas comme ça.
On demande à Florian. On ne demande pas à Florian
Zeller. C'est ça. À Flo. Hé, Flo, tu m'écris un rôle.
Non, on est.
Non, ça marche pas comme ça.
Bah, je peux. Non, non. Okay. C'est, il a des désirs très précis. Et puis, un auteur, un créateur, c'est compliqué. Enfin, déjà, bien il faut sûr. Qu'il trouve ses. Ses envies.
Saluez-le pour nous, en tout cas. Merci mille fois d'être venu à ce micro. C'est Philippe Bertrand que nous allons rejoindre pour les cartes de campagne.
Oui, je suis là.
Ah.
Et je suis parfaitement bilingue aussi.
Oui. Oula, j'ai peur de la chute. Là.
Non, je vous donne un exemple.
Ah ouais.
Please mind the gap between the train and the platform.
Oui, ah, joli. Bien sûr.
Hein? Joli.
Et ça vous épate.
Hyper écoloso Sport Jersey aussi.
Ah, attention,
bravo.
Tu risques de te faire pincer les doigts.
Oui, c'est ça,
exactement.
C'est Serge le lapin.
Lapinou, c'est ça.
Serge le lapin.
Il s'appelle Serge, je crois.
The Rabbit. Ouais.
Demain, Leïla, avec toute la bande originale, recevront donc Mélanie Page et Arthur Junior. Et tout de suite,
venez, Nagui, quand même, une tête.
Et tout de suite, c'est Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. Bonne émission, Philippe.
Salut.